Radio Okapi. Le journal, grâce à Mzati Masanzi.
Au sommaire de ce journal, le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, réitère l'urgence de mettre en œuvre la résolution 2773 qui souligne la nécessité de respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Il appelle à la fin de l'offensive du M23 au nord et au sud Kivu. Jean-Pierre Lacroix a lancé cet appel hier à son arrivée à Beni. Naufrage d'un bateau dans le lac Tanganyika. Bilan provisoire, 4 morts, des blessés et des disparus. L'accident est survenu la nuit dernière vers le village Kimomo. L'embarcation se serait heurtée à une grosse pierre. L'invité de ce journal est Désirée Chaleur, chef de bureau du PAM dans le Grand Kasaï. Elle fait la restitution de l'atelier organisé hier en Mbujimayi sur les réalisations du programme alimentaire mondial dans la province du Kasaï oriental. Mesdames et messieurs, bonjour. Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, s'est rendu hier à Beni, dans la province du Nord Kivu. Il a profité de cette occasion pour insister sur l'importance de respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, alors que les groupes armés M23 soutenus par les forces rwandaises contrôlent plusieurs territoires dans l'est du pays. Jean-Pierre Lacroix a réitéré justement l'urgence de mettre en œuvre la résolution 2773 qui souligne la nécessité, bien sûr, de respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Un élément de Gisèle Cage rendu par Jude Mister Bilanda.
Au cours de sa visite à Beni, Jean-Pierre Lacroix a rencontré les autorités provinciales, les nouveaux commandants de la force de maintien de la paix de l'ONU, ainsi que le casque bleu de la MONUSCO déployé dans la région afin d'évaluer les derniers développements, a précisé les porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric, lors d'un point de presse à New York. Face à la détérioration de la situation sécuritaire, Jean-Pierre Lacroix a réitéré l'urgence de mettre en œuvre rapidement la résolution 2773 qui souligne la nécessité de respecter l'intégrité territoriale de la RDC et appelle à la fin de l'offensive du M23 au nord Kivu et au sud Kivu. D'autre part, les HCR indiquent que le nombre des civils congolais fuyant les conflits continue d'augmenter. En seulement 2 semaines, 60 000 hommes, femmes et enfants ont fui la RDC vers le Burundi, certains ayant parcouru des centaines de kilomètres à pied en quête désespérée de sécurité. Ce samedi, le chef des opérations de paix se rendra à Entebbe en Ouganda pour rencontrer les collègues des forces de maintien de la paix qui ont été transférés de Goma les mois derniers.
Dans l'actualité, sachez aussi que l'équipe pays du Fonds monétaire international a participé hier à une réunion de Troïka politique présidée par le ministre des Finances, Doudou Fambalikundeli Botai. C'est dans le cadre des suivis des deux nouveaux programmes économiques et financiers, FEC et FRD, conclus avec le gouvernement en novembre 2024. Ces deux programmes ont été approuvés par le conseil d'administration du FMI le 15 janvier dernier pour un montant total de près de 3 milliards de dollars. Michel Kifindangoy.
Au cours de cette réunion, les experts des ministères de Finances et du Budget ont évalué avec l'équipe du FMI les engagements des parties prenantes afin d'assurer le bon déroulement du processus et de faciliter la validation ainsi que les décaissements associés. Dans un contexte marqué par le conflit à l'est de la RDC, la commission du FMI s'est dit prête à collaborer étroitement avec les représentants congolais pour analyser les répercussions de cette situation sur l'économie et les finances publiques. Le coordonnateur du comité technique de suivi et évaluation des réformes a précisé que cette mission inclura une évaluation spécifique des provinces sous occupation afin d'adapter le cadrage macroéconomique. Félicien Moulenda.
Étant donné le contexte actuel des guerres qui règnent dans le pays, ils veulent savoir les impacts d'abord sur l'économie, sur les finances publiques et quelles sont les mesures pour essayer de mitiger l'impact par exemple de la guerre sur les recettes.
Pour finir, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a réaffirmé la volonté du gouvernement de la RDC d'assurer une mise en œuvre rigoureuse des deux nouveaux programmes conclus avec le FMI en s'appuyant sur les principes de la bonne gouvernance.
Michel Kifindangoy. Justice. Un tribunal militaire a condamné vendredi à la peine de mort 55 militaires des forces armées de la RDC et FARDC pour des actes de pillage, des fuites devant l'ennemi et des violations des consignes. Le verdict a été rendu à Moussienene, dans le territoire de Lubero Nord Kivu, par le tribunal militaire des garnisons de Butembo. Ces sanctions visent à rétablir la discipline au sein des troupes engagées sur le terrain, indique un officier supérieur des FARDC. Des détails sur ce verdict avec Ronéline Timonera.
Parmi les 63 militaires jugés en flagrance, 55 ont été reconnus coupables et condamnés à la peine capitale, principalement pour des faits d'indiscipline et de désertion face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda selon les sources judiciaires. Le même procès qui s'est déroulé sur 5 jours a abouti à des condamnations plus légères pour d'autres accusés. 2 soldats ont été coupés de 2 ans de servitude pénale, un autre de 5 ans tandis qu'un provenu a été acquitté. Le colonel Makazuka Emumba, porte-parole des opérations Sokola 1, présent à ces audiences foraines, a souligné l'importance de ces jugements pour le maintien de l'ordre au sein des FRDC. La discipline est la base de toute armée. Il n'y a pas de place pour l'indiscipline. Nous traquerons tous ceux qui abandonnent le front sans autorisation, qui fuient devant l'ennemi ou qui violent les consignes en pleine opération militaire, a-t-il martelé. Cette condamnation de masse n'est pas une première. Le 14 février 2025, 212 militaires de FRDC avaient également été condamnés à la peine capitale pour des crimes graves, dont meurtre, viol et tentative de meurtre commis à Bukavu.
Par ailleurs, le commandant des opérations Ngemba, qui signifie paix, de la 11e région militaire du Grand Bandundu, Axe Kwamout Bagada, a échangé hier avec la population civile du village Mpuimba, dans les territoires de Kwamout, en proie à l'insécurité causée par la milice Mobondo. Ces échanges ont tourné autour du pardon et de la réconciliation entre les parties en conflit pour une cohabitation pacifique. Au cours de cette rencontre, le général de brigade Moyorabi Richard a demandé aux habitants du village de Mpuimba de cultiver le sens du pardon et l'esprit de vivre ensemble dans les buts de ramener la paix dans ces coins du pays. Le point avec Irène Bomalozolo.
Ces échanges entre l'armée et la population civile du territoire de Kwamout ont eu lieu précisément au village Mpuimba, situé à 18 km à l'est de la cité de Kwamout, chef-lieu de ce territoire. Le capitaine Anthony Mwalushai est le porte-parole des opérations Ngemba.
Les opérations Ngemba, c'est aussi les échanges entre la population et son armée. C'est dans cette optique que le commandant des opérations Ngemba, Axe Kwamout Bakata, a échangé avec la population civile. Le pardon et la réconciliation entre les parties en conflit était le sujet à l'ordre du jour. Le général des brigades Moyorabi Richard a demandé aux habitants de cultiver le sens du pardon et l'esprit de vivre ensemble. Nous allons ramener la paix dans l'espace Grand Bandundu, dans la commune de Maluku, dans les territoires de Kimvula, dans le Bas-Congo.
Message accueilli avec joie par la population venue en masse écouter pour la toute première fois dans l'histoire de ces villages. Un chef militaire lui accordait l'occasion de s'exprimer. Ses habitants ont promis d'aller prêcher cette bonne nouvelle de la paix aux insurgés Mobondo qui se cachent encore dans des brousses. Il sied de souligner que pour encourager les relations civilo-militaires, l'unité mobile d'intervention rapide a consulté et soigné gratuitement les malades trouvés dans les villages Mpuimba.
Et au Nord Kivu, le mois de mars est traditionnellement dédié aux femmes et cette année placé sous le signe du soutien aux forces armées à Beni. Les femmes de cette ville ont décidé de collecter des fonds pour appuyer l'effort de guerre et soutenir les FRDC ainsi que leurs alliés, les Wazalendo, engagés au front contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Cette résolution a été prise hier à Beni lors d'une assemblée préparatoire aux activités du mois de la femme. Pour Ruth Sabouni, chef du bureau genre, famille et enfants de cette ville, cette initiative est une manière pour les femmes de manifester leur solidarité envers l'armée. Ruth Sabouni est au micro de Marc Kemaro Fimbo.
Nous, au niveau de Beni, on s'est dit qu'on ne va pas s'écarter à l'idée du gouvernement, mais aussi au contexte que nous sommes en train de vivre dans notre zone. Et c'est pour cela, ensemble avec les femmes, lorsqu'on a échangé, on s'est dit que les actions que nous allons mener vont plus cadrer avec l'appui pour l'effort de guerre contre les atrocités que nous sommes en train de subir dans notre province. C'est pour cela que nous avons demandé à des différentes couches et les représentantes qui ont participé à cette réunion de faire large diffusion par rapport à ce que nous allons faire. Pour la journée du 8 mars, on n'aura pas de grandes activités à mener. Tout ce qu'on aura à récolter dans le sens du mois de la femme sera accordé aux autorités militaires dans le cadre d'appuyer l'effort de guerre pour que les militaires qui sont sur les lignes de front voient aussi que les femmes sont derrière nous, les femmes nous accompagnent.
Les Congolais doivent réveiller le patriotisme qui s'endort en eux. ce thème a fait l'objet d'une conférence débat organisée par l'Assemblée provinciale de la Tchopo hier à l'intention de la population générale et spécialement les étudiants à l'université de Kisangani. L'objectif poursuivi est notamment d'éveiller la conscience de l'élite congolaise afin d'intégrer l'armée nationale. Ceci en vue d'un changement dans la lutte contre les envahisseurs et défendre l'intégrité territoriale du pays. Cette conférence a connu plusieurs orateurs, dont le commandant de la 31e région militaire, Jacques Mukonkole.
Plusieurs centaines d'étudiants, des scientifiques et des acteurs sociopolitiques ont pris part à cette conférence débat. Pour Mathéus Kanga, président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, l'élite congolaise doit se lever pour défendre la patrie.
Sans l'élite intéressée dans l'armée, nous continuerons de subir les mêmes sorts. Vous avez suivi des exemples. Quand on a des avions de chasse, on a des drones, on a des armes sophistiquées qui sont manipulées par les étrangers, ce sera le plus grand danger pour notre nation. D'où il est important que l'élite puisse prendre conscience. Les autres sociétés du monde sont guidées par l'élite intellectuelle. Mais la société congolaise, l'élite se laisse guider par les communs des mortels. Il faudrait que cette situation puisse changer.
Les participants à ces échanges saluent cette conférence. Ils promettent leur implication dans cette lutte pour la souveraineté de la RDC.
Une très belle initiative.
Et en intégrant l'armée, nous avons la possibilité et l'obligation de défendre notre patrie.
Je suis prêt à accompagner l'initiative de l'armée.
C'est arrivé vraiment à point nommé parce que l'éveil patriotique est indispensable en ce moment. Le contexte dans lequel nous nous trouvons exige une campagne suivie de l'éveil patriotique.
Cette conférence marque le début d'une série d'activités patriotiques initiées par l'Assemblée provinciale de la Tchopo, ceci pour mobiliser la population contre l'agression rwandaise. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur la radio de la paix, 4 enfants morts, quelques blessés et des disparus, bilan provisoire du naufrage du bateau Mahadja Buyamungu. Des sources rapportent que le drame est survenu sur le lac Tanganyika dans la nuit de vendredi à ce samedi au niveau du village Kimomo. Nous sommes à environ 30 km de la ville de Kalemie. À la base du naufrage, l'embarcation se serait heurtée à une grosse pierre qui s'est trouvée sur le lac, indiquent certaines sources. Une correspondance à Kalemie de Paul Mounanga.
L'embarcation en provenance de Baraka à 90 km de la ville d'Uvira dans le sud Kivu se rendait dans la ville de Kalemie. Des témoins rapportent que parmi les passagers à bord du bot qui était surchargé, il y a des déplacés en provenance du nord et du sud Kivu fuyant la guerre ainsi que des militaires blessés. Témoignage du président du mouvement citoyen parlement Debout sans tabou. Nathan Mugisho se trouve sur les lieux du drame.
Sur place où nous sommes, à Kimomo, il y a des familles qui sont en train de pleurer parce que elles étaient embarquées dans ces bottes, mais elles n'en parviennent pas à retrouver les leurs. Il y a une panique, une douleur qui se fait lire sur le visage de la population dans le village Kimomo. Nous avons initié sur place des contributions afin de trouver le carburant. Et nous avons fait appel aux pêcheurs qui sont des volontaires qui venaient de monter encore sous les lacs afin de rechercher les corps qui sont introuvables jusqu'à présent.
Pour l'instant, aucune réaction des autorités de la province du Tanganyika.
Sud Kivu, afin de faire face à l'afflux des blessés par armes, le comité international de la Croix-Rouge a fait une dotation à l'hôpital provincial général des références de Bukavu. La remise a eu lieu hier et pour prévenir la rupture de la fourniture en eau potable dans la ville de Bukavu, le CICR a remis à la régie des eaux un générateur de 500 kVA en renforçant l'opérationnalité des services essentiels que sont la régie des eaux et l'hôpital provincial. Le CICR aide les habitants de Bukavu et de ses environs à faire face aux défis humanitaires actuels. Rachel Kessembango pour plus de détails.
Pour la régie des eaux, il s'agit d'un générateur de 500 kVA, de 10 000 litres de carburant et 18 tonnes de sulfate d'aluminium pour le traitement d'eau. Cette donation vise à renforcer la capacité de la régie des eaux à maintenir une distribution continue d'eau potable malgré la crise actuelle et même en cas de coupure d'électricité. Et pour l'hôpital général, la donation est constituée d'un générateur 330 kVA et 10 000 litres de carburant. Le CICR y a également monté 2 tentes supplémentaires de 24 places, construit 4 toilettes et 2 douches d'urgence. Docteur Guy Moulingania, médecin directeur de l'hôpital général.
On est en train d'aménager le captage d'eau autour de 30 000 litres par jour, ce qui permettra d'offrir de l'eau à tous les malades de l'hôpital dans une certaine mesure. Je dois dire que cette donation arrive à point nommé, mais c'est aussi une expression de cette empathie, de cette résilience au niveau de nos communautés locales ici. En tout cas, toute notre gratitude pour CICR.
signalant qu'à ce jour, le total de blessés par arme hospitalisés dans cette structure sanitaire est des 192 patients. La majorité proviennent de Bukavu, d'autres en provenance de Kalehe, Kabare, Walungu, mais également ceux transférés de Goma.
Parlons de la clôture hier à Kinshasa de l'atelier de renforcement des capacités des inspecteurs et commandants des grandes unités de la police sur le rôle de l'IGPNC dans la promotion et la protection des droits humains au sein des unités et services de la police. Une occasion pour le commandant de l'IGPNC, Philemon Patience Mouchidiav, de recommander aux participants de répercuter de manière pérenne toutes les notions en lien avec la dignité humaine jusqu'au moins gradé des policiers. Billy Van Lutumba nous en parle.
Initiateur de ces recyclages, l'inspecteur général de la PNC Mouchidiab veut voir l'image de la police de la RDC se conformer à celle des autres nations où les droits de l'homme sont observés par les éléments de la police.
J'enjoins tous les inspecteurs à devenir les acteurs clés de la promotion et de la protection des droits humains lors de vos missions de contrôle au sein des unités et services de la police. En vue de redorer l'image prestigieuse de notre corps sapé par le comportement pernicieux de certains policiers tarés. Au commandant des commissariats urbains et des groupes mobiles d'intervention, j'ai voulu votre participation à cet atelier en vue de vous exhorter à faire observer scrupuleusement les droits de l'homme dans vos différentes opérations.
Bienvenue Watsa et commandant du commissariat district de Lukunga qui intervient souvent sur terrain pour faire respecter la loi.
Un commandant c'est d'abord un instructeur, un formateur de son unité. Ce que nous avons appris ici, nous allons les transmettre à nos différentes unités, de sous-unités, pour que eux aussi à leur niveau puissent comprendre ce que c'est le droit de l'homme et comment les appliquer et les préserver sur le terrain.
Inspectrice à l'IGPNC, Mireille trouve très capitale cette formation.
L'inaction de l'inspection générale de la police compromettra sans nul doute la paix sociale en République démocratique du Congo, la cohésion nationale, le développement ainsi que la sécurité.
Ce recyclage terminé, il reste à voir comment chaque commandant d'unité pourra répercuter les acquis au sein de ses troupes.
Actualité internationale.
Au Maroc, la population soulagée après l'annulation par les rois du sacrifice de l'Aïd. Le roi Mohamed VI demande aux familles de ne pas acheter des moutons cette année pour préserver les budgets des ménages. En raison de la sécheresse, les prix des moutons ont en effet atteint leur plus haut niveau sur le marché. Une mesure bien accueillie par la société marocaine.
L'invité.
Le programme alimentaire mondial PAM a organisé ce vendredi un atelier sur ses réalisations dans la province du Kassai-Oriental. Il a également annoncé les perspectives pour 2025. Désiré Chaleur, chef des bureaux du PAM dans le Grand Kassai, nous en parle dans cet entretien avec Esther Ndalafina.
Bonjour Madame Désirée Chaleur Ouattat. Le PAM vient d'organiser une grande activité dans laquelle il parle de ses propres réalisations. Quelles sont ces réalisations-là, Madame?
Merci. Les réalisations du PAM au Kassai Oriental, nous avons l'alimentation scolaire dans les territoires de Lopatapata, de Kabeaka, Mwanga et de Miabi. Nous avons la nutrition dans le territoire de Miabi et de Boutimaï, ainsi que le projet sur la promotion de la sécurité alimentaire à Kabeaka, Mwanga et Miabi.
Nous avons entendu au cours de cet atelier les membres du gouvernement provincial se plaindre par rapport à l'insuffisance de l'appui de PAM. Comment réagissez-vous par rapport à cela?
Et comme je le disais, le premier défi, c'est les ressources. N'est-ce pas? Nous savons que pour vraiment assurer la sécurité alimentaire dans la province, c'est d'abord le gouvernement provincial. Ensuite, nous, les humanitaires et le PAM, qui a le mandat de la sécurité alimentaire, vient en appui. Et comme nous le savons, c'est que la sécurité alimentaire, c'est pas seulement une question de vivre. C'est une question de plusieurs facteurs qui concourent à la sécurité alimentaire. Donc nous, si on apporte les vivres ou bien les formations aux producteurs, on encadre, on fait la promotion de la sécurité alimentaire, il faudrait aussi que d'autres facteurs qui concourent à la sécurité alimentaire soient mis en œuvre. Mais n'étant pas dans notre mandat, on a besoin des autres acteurs, que ce soit humanitaire ou bien étatique, d'accompagner pour qu'on assure la sécurité alimentaire dans la province.
Les participants ont aussi souhaité que le PAM quitte de la phase de l'urgence vers la phase de développement. Est-ce que c'est possible présentement?
Je dirais que nous sommes déjà dans la phase de développement. C'est parce que peut-être les modalités, ou bien il y a une incompréhension, ou bien une insuffisance d'informations que nous allons continuer à donner, n'est-ce pas? Dans le Kasaï oriental, nous n'avons pas fait en 2024, nous n'allons pas le faire en 2025, n'est-ce pas, les distributions générales de vivres. Nous sommes en train de faire ici l'alimentation scolaire, qui n'est pas une urgence. Les élèves sont de la province, ils vont continuer dans la province. Et là, on a fait des jardins scolaires, n'est-ce pas? Nous avons fait des champs communautaires pour commencer à initier la pérennisation. Et aussi, le gouvernement a d'autres stratégies pour cette pérennisation. Donc, comme j'expliquais lors de l'atelier, la modalité de transfert, c'est-à-dire être des vivres ou bien le cash, ce n'est pas des distributions générales parce que nous avons, par exemple, la protection des semences. Lorsque soit la FAO ou bien un autre partenaire ou bien le PAM même donne les semences, il faut que la communauté ou les petits producteurs qui n'ont pas assez de moyens pour qu'ils ne consomment pas ces semences-là, nous apportons des vivres ou bien du cash pour que eux ils trouvent la nourriture afin de ne pas consommer les semences.
Par rapport à vos activités dans la province de Kasaï-Oriental, quelles sont les difficultés auxquelles le PAM est confronté?
Les difficultés du PAM dans le Kasaï-Oriental, nous avons en premier lieu la limitation des ressources parce que comme nous l'avons présenté, disons, la province du Kasaï oriental, avec les études de l'EFSA et l'IPC, est toujours en phase 3 ou phase 4 dans certaines zones, ce qui est une phase de crise où, dans toute la province, nous devons intervenir. Mais comme on n'a pas assez de ressources, nous sommes obligés de faire des choix en fonction de certains critères que nous avons élaborés. L'autre difficulté, ce sont les routes. Les infrastructures routières sont dans un état qui est préoccupant pour nous parce que nos camions, pour venir livrer les vivres, c'est vraiment difficile. Et parfois, ils sont bloqués pendant des jours parce qu'il y a peut-être un autre camion qui est enlisé. Il faut attendre 2-3 jours, parfois des semaines.
Madame Désirée Chaleur, je vous remercie.
Merci.
Notre invité était avec Esther Ndalafina. C'est la fin de ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda et mis en onde par Polydor Basunga. Grâce à Mzati Masanzi était la présentation. Merci de l'avoir écouté.